Nous allons reprendre nos travaux. Après avoir été absolument charmé par les yeux, par l'exposition de Kandinsky, il y en a un qui me dit bof à côté. Moi, je parle pour ma part. Nous allons entamer. Peut-être autour de... Il est 11h30, peut-être qu'on va essayer de finir un peu avant 1h pour qu'on ait le temps un peu de déjeuner, parce que nous avons deux interventions assez lourdes cet après-midi. Comme vous l'avez vu sur votre programme, il y a Philippe Théier, donc qui est maître de conférence en sciences politiques à l'IEP de Grenoble, qui va venir nous parler et qui était un éminent spécialiste de la question des politiques culturelles et de la place de l'art sur les territoires. Et donc nous allons continuer, bien entendu, notre réflexion qui s'est un peu précisé, enfin qui est sur habitants et territoires pour le moment. Donc nous aurons à chaque fois au cours de ces deux jours un moment de rencontre juste entre nous, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intervention qui est prévue, pour faire des tours de table à chaque fois sur des thèmes un peu différents. Moi, je suis chargée d'initier la première. Ces débats absolument entre nous ont pour fonction de permettre à chacun de pouvoir énoncer ses propres problématiques sur le territoire sur lequel il est. Il n'y a pas du tout dans ce travail-là, dans un premier temps, de mettre tout le monde sur le même sac. C'est surtout pas ça. C'est de voir les différences. C'est de préciser les différences des acteurs qui sont autour de cette table et la différence de leurs préoccupations et la manière dont chacun réussit, tente, essaye, échoue. Peu importe, il n'y a pas de médaille ni de bonus. C'est simplement vraiment la question du travail sur le territoire avec la création à partir du lieu où chacun se trouve. Ce qui fait qu'on va avoir, me semble-t-il, des différences assez notables selon là où on est et à la place où l'on est. Et c'est surtout cette différence qu'on voudrait entendre pour, encore une fois, je vous le rappelle, avoir cet objectif de voir à quelles conditions est-ce que les différents acteurs dont nous sommes les représentants ici peuvent travailler ensemble sur le même territoire. Ici, nous sommes sur l'Île-de-France. Et peuvent être complémentaires, non pas les mêmes, mais complémentaires. C'est ce que je disais hier. C'est-à-dire que si nous avons un but commun ensemble, je pense que c'est déjà énorme. Donc il faudra définir si effectivement nous sommes dans la même orientation et sur le même but. Il faut savoir que à partir de là, chacun va avoir sa spécificité et son identité sur le territoire et va agir par rapport à cette identité, ce qui ne l'empêche pas de prendre en compte les avancées, les idées, les réflexions des autres pour enrichir sa propre pratique. Mais il n'est absolument pas question ici de faire du nivellement, hein. On est bien d'accord. Il est question ici de préciser l'identité de chacun, sa spécificité, son originalité. Il faut qu'elle perdure, mais en sachant qu'elle est complémentaire d'autres actions qui sont sur le territoire et de savoir comment l'ensemble de ces actions peuvent fonctionner, s'articuler ensemble, encore une fois en restant à l'écoute de l'un ou de l'autre, des avancées ou des idées des uns ou des autres. Donc voilà. Donc après la journée d'hier qui a été extrêmement riche, il me semble, extrêmement dense, où il y a déjà, me semble-t-il, un certain nombre d'éléments qui sont apparus, ce qui serait intéressant maintenant, c'est que chacun prenne la parole et dise, si vous en êtes d'accord, la question qui est posée ici, c'est comment chacun de nous se pose la question de la création contemporaine sur son territoire. Comment il se la pose? Comment il essaye d'y répondre ou de ne pas répondre? Est-ce qu'il se la pose? On peut aussi poser tout simplement cette question-là. Est-ce qu'ils se la posent et comment et pourquoi et dans quel contexte et, bien entendu, quelles sont ses relations avec les autres acteurs à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il est tout seul à faire son petit chemin? Est-ce qu'il n'est pas tout seul? Est-ce qu'il est soutenu? Est-ce qu'il n'est pas soutenu? Avec qui et comment? Donc, pour ne pas faire tout en même temps, et d'un coup, puisque nous allons à chaque fois avoir ce temps de parole entre nous, peut-être qu'il serait intéressant, aujourd'hui, de se poser spécifiquement la question des habitants. C'est-à-dire, comment chacun se pose la question de la création par rapport aux habitants? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vu plusieurs cas hier de cette question-là, avec Claude Ruteau, hier matin, avec une expérience d'une création qui est mise comme ça au milieu d'une cité. On a vu les pratiques culturelles, non pas des habitants de Gennevilliers, mais de ceux qui fréquentent les lieux labellisés culture, hein, ce qui est à peu près l'ensemble des études qu'on a sont toujours sur les mêmes thèmes. Donc il faudrait qu'on déborde peut-être de ce thème-là, mais c'est important de voir comment est-ce que c'est étudié sur ce thème-là. Et aussi de voir la question de la sensibilisation qui était posée ici à l'intérieur de l'éducation nationale, donc avec une visée qui est celle de l'éducation nationale, comme on l'avait dit aussi hier, mais qui n'est pas sans nous intéresser et nous poser des questions et peut-être nous enrichir aussi sur les types de pratiques qu'on peut faire. Donc, pour pas qu'on pose toutes les questions en même temps, est-ce que vous seriez d'accord pour que chacun prenne la parole pour se dire comment il se pose la question de la création sur son territoire d'intervention par rapport aux pratiques des habitants, aux habitants? C'est encore une fois la culture pour tous et la culture par tous. C'est-à-dire que nous allons avoir ces deux choses qui vont venir se superposer et qui ne sont absolument pas contradictoires. Et si un jour on pouvait sortir de cet héritage dans lequel on a du mal quand même à s'extirper et à accepter que les gens qui ne sont pas dans la culture légitime ont une culture... qui est incroyable, mais c'est vrai, et on arrive à harmoniser justement. Donc autour de cette table, nous avons autant la création contemporaine, nous avons le hip-hop, nous avons les musiques actuelles, hein, nous avons le 104 qui nous a rejoint aujourd'hui, rappelez-moi votre nom.
Cécile Renaud.
Donc Cécile Renaud qui est...
Présentez-vous.
Je suis la directrice de l'administration de la production et des publics, donc j'ai participé au projet avec les deux directeurs depuis la phase de candidature, donc ça fait 3 ans, 4 ans déjà. Oui.
Oui, pour l'instant.
Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour qu'on passe la parole? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes d'accord que chacun puisse prendre la parole d'une façon succincte dans un premier temps, puisqu'après, il y a des questionnements et il y a du débat qui va arriver? Comment est-ce qu'on fait? Chacun prend la parole à tour de rôle ou chacun prend la parole et on débat après? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace? On fait quand même un tour de table succinct et ensuite on attaque, on demande des développements pour ceux qui en ont besoin, etc. Hein, et c'est bien sur un... Hein,
moi, je pense que plutôt réactif et...
J'aimerais que tout le monde s'exprime, parce qu'il y a des gens qui ont visiblement plus de mal à s'exprimer que d'autres. Je parle pas de moi. Et je voudrais vraiment que on entende, voilà, l'ensemble des personnes qui sont là. Pour moi, c'est important. Il y a ceux qui ont la parole plus facile, il y a ceux qui ont la parole moins facile. Il y en a qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Moi, pas encore, mais ça va arriver. Il y en a qui sont là depuis quelques années. Donc, obligatoirement, on n'est pas sur les mêmes facilités. Hein. Donc, je voudrais qu'il y ait... D'ailleurs, je salue le fait que notre séminaire est composé à la fois d'anciens, entre guillemets, et de nouveaux. Donc, pour moi, c'est extrêmement important qu'il peut y avoir aussi des visions hein, qui ne sont pas les mêmes. On ne part pas du même focal. Hein, moi, je vois, quand je travaille avec des gens beaucoup plus jeunes sur des thématiques très différentes, je suis absolument sidérée de voir qu'ils n'ont pas du tout... On parle pas de la même chose, entre guillemets, c'est-à-dire on parle de la même chose, mais pas du même angle d'attaque. Donc, pour moi, je trouve que c'est enrichissant pour nous. Donc, peut-être qu'on commence par ça, puis on voit un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel ?
Pas de souci.
Pas de souci ? Hein ? Alors, on va peut-être donner la parole à David Gis pour commencer. Comme il sort de... Il, quand même, il faut nous dire qu'il a fait l'ouverture de son festival hier soir et... Voilà, donc il est bien dedans. Donc je répète la question pour bien qu'elle s'imprègne en vous. Hein. C'est comment chacun des acteurs se pose la question de la création sur son territoire, mais on parle des habitants, c'est à partir, hein, avec dans l'idée, pour les habitants.
J'ai envie de réagir en disant que si on pouvait partir des habitants, ça serait bien, mais le problème, c'est qu'il y a quelques intermédiaires entre les habitants et les acteurs culturels. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, je sors de l'ouverture du festival d'hier soir et c'est peut-être là-dessus qu'on peut s'appuyer, que je peux m'appuyer. Alfortville, une ville donc de la région d'Île-de-France dans laquelle un centre de création nationale est implanté, mais qui, et c'est pas anecdotique, y vit une histoire très curieuse par rapport aux élus, parce que c'est vrai qu'on a été appelés dans cet espace. Et puis, au bout de 3 ans, la municipalité a dénoncé la convention. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu comme des verrues dans une ville qui ne voulait plus entendre parler de l'action culturelle contemporaine. Bon, on a réussi à rester et à faire, j'allais dire, nos preuves, comme s'il fallait faire ses preuves. À titre anecdotique aussi, enfin, c'est pas anecdotique, la ville a décidé de construire un pôle culturel dans le cadre de l'intercommunalité Créteil des Maille-Brévannes Alfortville. Ils ont construit une superbe salle, superbe médiathèque. Mais évidemment, en articulant le projet de la programmation sans les acteurs culturels, ce qui est un grand classique, j'imagine, ça n'étonnera personne. À titre anecdotique aussi, et c'est révélateur, hier soir, l'élu de la culture était présent juste avant le concert et il m'a dit, tu sais, je suis désolé, j'ai un rendez-vous très important. Et il est parti comme un voleur. Voilà, bon. Bon, ce sont des choses que tout le monde connaît. Je veux pas trop charger les acteurs parce qu'effectivement, malgré tout, ils ont une histoire et ils font ce qu'ils peuvent. Ce que je veux dire plus précisément, c'est que nous, dans la sphère de la création musicale, on passe beaucoup de temps et d'énergie à être un peu schizophrène, c'est-à-dire à la fois à faire ce pour quoi nous sommes missionnés, c'est-à-dire centre de création, accueillir les créateurs et aller au bout de leur projet dans la liberté la plus totale de l'inventivité. Or, on a dans notre cahier des charges aussi la charge de la diffusion de ce travail. Alors, dans les 5 premières années où j'ai dirigé la Muse, j'avais pris le parti de prendre un espace de diffusion à Paris, le Théâtre Tillia Montfort, et de faire un festival, j'allais dire, parisien, dans la tradition des festivals parisiens. Évidemment, je me suis rendu compte au bout de 5 ans que c'était une sorte de mode de diffusion endogamique qui était qu'on avait, les acteurs de la création contemporaine qui étaient là présents, un peu comme on peut aller au festival de l'IRCAM, j'ai rien contre l'IRCAM, mais que malgré tout, lorsque nous sommes dans la salle de l'IRCAM, on a parfois l'impression, pas que, mais parfois l'impression de ne rencontrer qu'un certain type de public, puisque c'est de ça dont on parle. Donc j'ai fait le choix d'essayer de me tourner vers des collectivités qui étaient peut-être plus défavorisées sur le plan des propositions de création, et donc leur faire des propositions et de construire des partenariats. Et donc avec Alfortville, évidemment. Alors là se pose la question de la schizophrénie dont je parlais tout à l'heure, parce qu'effectivement, nous, on arrive avec des projets de création qui, effectivement, sont à des années-lumière de ce qu'ils ont l'habitude classiquement de programmer. Et je ne leur en fais pas grief. C'est le monde de la médiation qui est comme ça. Et donc, c'est vrai que la culture musicale contemporaine est dans un déficit absolument important et qui, quoi qu'on dise, se creuse de plus en plus. Malgré des franges un peu marginales, musique électronique et des choses qui ont tendance à être plus rassembleuses. Mais au bout du compte, il y a quand même un déficit qui se creuse. Donc on passe son temps à essayer de dire comment faire passer un projet de création musicale contemporain dans un espace généraliste qui n'a absolument aucune culture de ça. Alors on trouve des formes, on fait du ciné-concert, on fait des choses un petit peu hybrides où on essaye de faire passer des propositions. Hier, on a programmé un spectacle que je trouve magnifique, une odyssée d'Alexandros Marqueas autour donc des textes à la fois d'Homère, mais aussi d'autres poètes grecs. Bon, c'est un spectacle quand même assez exigeant, l'ensemble Ars Nova, c'est de l'écriture contemporaine, même si elle hybride avec des cultures issues de la Méditerranée, mais il n'empêche que c'était un projet ambitieux. Nora Gontaré, la directrice du pôle du culturel, a été... a été convaincu, je l'ai invité à la création qui a eu lieu l'année dernière à l'Auditorium Saint-Germain, il a fallu faire tout un travail, il a dit oui, ok, on va le faire, mais il n'empêche qu'on se retrouve complètement seul par rapport à la question qui est posée, absolument, celle des publics, on se retrouve seul à faire tout ce travail de sensibilisation, action culturelle, et de faire que, bon, au bout du compte, hier, il y avait 150 personnes dans la salle, et 150 personnes qui n'étaient pas que des amis. Il y avait peut-être un tiers de gens qui pratiquent la musique contemporaine, mais je pense que les deux tiers...
Et comment ils sont venus alors?
Ah, alors, ils sont venus parce que depuis des semaines, on a au sein de la structure un responsable de la pédagogie et de l'action culturelle qui a développé tout un travail. Alexandros Marqueas a donné de son temps pour travailler avec un chœur de femmes et le conservatoire d'Alfortville et qui a, autour de certaines mélodies issues de ce spectacle, travaillé avec ce chœur et les a fait travailler. Donc, en première partie, il y a eu trois mélodies. Chœur de femmes adulte du conservatoire d'Alfortville et qui s'est donc prêté au jeu de la création musicale par le biais d'une proposition qui était en rapport avec le spectacle. Donc, travail classique en relation avec les conservatoires, avec ces espaces qui effectivement devraient en principe au moins nous amener les professeurs de musique au concert, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Travail d'action culturelle aussi avec les écoles, puisqu'il y a eu aussi pas mal de sensibilisation autour de ce concert. Enfin, le travail classique qui fait qu'au bout du compte, on amène le public. Une chose aussi très importante, c'est de se dire que ça fait trois saisons qu'avec le pôle culturel, on insiste pour leur dire il faut le faire et qu'à chaque fois, on leur fait des propositions. Donc la première année, il y avait 50 personnes, la deuxième 100, cette année 150. Je me dis que peu à peu, on va finir par y arriver. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette sorte de tiraillement, comme s'il fallait les convaincre d'une chose sur laquelle, fondamentalement, ils n'ont pas un grand intérêt. Alors, bon, je ne vais pas parler pendant trois jours. Voilà. Donc là, j'ai brossé un peu le cadre général, mais on reviendra sur les questions.
D'accord. Pour rester sur la musique, je vais donner la parole.
Il y a un micro.
Ah, pardon.
Alors, qui marche.
Peut-être présenter.
Alors,
Non, juste le nom.
Eric, oui, pour l'enregistrement. Toute la création par rapport aux habitants. Tout à l'heure, tu disais création pour les habitants. En fait, c'est pas du tout la démarche qui est la nôtre sur le territoire de Mantes-la-Jolie. On a tendance à dire régulièrement qu'on fait ni pour ni contre, mais avec les habitants. Donc, à trois niveaux. Il y a un premier niveau qui serait celui de l'initiation des projets, c'est-à-dire mettre en synergie des forces vives. Donc ça peut se traduire par donc l'accompagnement des groupes. Alors l'accompagnement, c'est mon deuxième point. Donc les groupes, donc initier des projets, par exemple des compilations. C'est un travail qu'on fait de manière récurrente maintenant depuis une dizaine d'années. Donc les trois dernières en date, c'était une compilation qui s'appelait la première qui me revient en tête, c'était Mantes la folie, état des lieux du rap dans le Mantois. Donc le territoire, c'est aussi, il est compris au sens large, puisqu'on travaille pour de la création émanant d'un territoire qui va jusqu'à la communauté d'agglomération de la Camille, de Mantes-en-Yvelines, et également sur la communauté qui jouxte, qui est les portes de l'Île-de-France. Donc c'est un travail de recensement des groupes. Alors l'intérêt de ce type de projet, c'est de voir des groupes sortir des caves. Sont des amateurs, enfin pas simplement d'ailleurs, des amateurs et ce qu'on appelle pudiquement, donc c'est pas vraiment des semi-professionnels, en voie de professionnalisation. C'est pas dur. Le salariat que tu notais hier, sujet de ce projet de loi de 2007, c'est encore l'ordonnance de 1945 qui gère ça, et donc il y a présomption de salariat. Donc en l'occurrence, ils sont majoritairement non salariés, et donc ces projets de compilation nous permettent de faire le point. Alors on a pris la perspective de prendre par esthétique. Donc le hip-hop, ça a été il y a 3 ans. On a fait Africa Mantes il y a 2 ans, donc sur les Music World. Mantes chante cette année. Donc voilà, ça nous permet de dresser un panorama des forces en présence, proposer un projet, d'avoir quelque chose qui rallie et qui permet d'ouvrir le dialogue. Donc sur le premier point, donc, qui est le fait d'initier les projets, ça peut être aussi des projets qui prennent en compte des municipalités. Le dernier projet en date s'appelle Seine en Seine, où on a fait venir une péniche en fait, oui. Non, on l'a pas acheté, on l'a fait venir de Belgique. On le reconduit cette année avec une autre péniche parce qu'on a eu pas mal de problèmes parce qu'on initiait le. C'est-à-dire qu'il y a eu le problème, pour l'anecdote, c'est difficile de faire venir une péniche de Belgique, voilà. Et c'est également parfois difficile de travailler aussi avec des municipalités sur des aspects de programmation notamment, puisque là donc on initiait le projet et on aurait aimé une volonté participative en termes de programmation et que chacun puisse mettre en valeur ses productions locales entre guillemets. D'ailleurs non, j'enlève les guillemets. Alors, donc justement, les deux sont liés. Là, c'est la diffusion des. Alors, c'est là où c'est complexe. C'est-à-dire que le groupe amateur est à la fois public et créateur. Je passe donc au deuxième point qui est celui de l'accompagnement des projets. Je dirais juste une grande tendance qui est celle de aucune logique de direction artistique. On sélectionne rien, surtout pas en esthétique, surtout pas en termes de niveau. C'est-à-dire qu'on estime que chacun a le droit de citer, sans mauvais jeu de mots. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place depuis 2 ans, notamment celui qui fonctionne le mieux, c'est un dispositif de une scène en autoprogrammation. On laisse la possibilité au groupe de venir sur une simple réservation sur une scène équipée. Et de jouer, donc avec des attendus pédagogiques bien sûr, le fait d'organiser son concert, de savoir prendre en main sa communication, son organisation, etc. Et le troisième point, ce serait le fait de collaborer à des projets communautaires et de réseau, avec la volonté, donc par rapport aux habitants, de décloisonner, c'est-à-dire pouvoir obtenir des aspects de mixité qui soient transgénérationnels, transculture. Comment on fait ? On essaye de faire en sorte de veiller à la mobilité des groupes, c'est-à-dire, on en a déjà parlé en aparté les uns les autres. Je suis vraiment convaincu de la nécessité pour un groupe de pas jouer devant son public. Voilà, ça permet d'abord de se confronter à un public nouveau, à une expérience nouvelle, ce qui est formateur. Et ça permet également de tisser des liens qui sont bénéfiques. Enfin, c'est un des premiers souhaits d'un groupe amateur, c'est-à-dire pouvoir bouger.
Mais avec quel outil ?
Avec des instruments, des scènes.
Très bien compris. Non, c'est-à-dire qu'on est d'accord, mais la difficulté, c'est d'y arriver.
Oui.
Parce que tu as la possibilité de pouvoir mettre tes groupes dans d'autres lieux où il y a une diffusion plus grande, où il y a une diffusion, je veux dire, il y aura un public plus généraliste.
Le point d'entrée, c'est les équipements. Enfin, les points d'entrée sont les équipements et les équipes, bien sûr. Les équipements, c'est-à-dire les scènes, donc dans des scènes équipées. Alors, il nous arrive de faire jouer les groupes dans des bars, etc. On n'a pas de religion en termes de lieu de diffusion. Par contre, on tient un discours par rapport à une qualité de diffusion et aussi par rapport à des aspects de prévention des risques auditifs. C'est-à-dire, on ne va pas jouer n'importe quoi, n'importe où. Donc oui, il y a une concertation qui se fait. Un des outils, c'est les studios de répétition, par exemple. Le fait de que chacun a un travail récurrent avec avec des groupes qui travaillent en fait au sein de sa structure, et donc qui les repère, qui connaît leur niveau, et on peut composer des plateaux par rapport à ça, des plateaux de niveau ou d'esthétique ou pour pouvoir proposer au public, par exemple, un plateau métal avec un groupe de bonnières, un groupe de bandes, un groupe d'animés.
Mais ton plateau métal, est-ce qu'il passe dans plusieurs équipements extrêmement différents
oui.
sur ton territoire?
Oui. Alors, il y a une opération qui a été faite depuis 2 ans, qui s'appelait Bande d'amateurs, qui s'appelle l'écho du local maintenant, avec le réseau donc musique actuelle du CRI 78. Non, je suis le vice-président accessoirement. Et l'idée était de pouvoir favoriser la mobilité des groupes. Donc sur 3 jours, il y a eu j'ai plus les chiffres en tête. Enfin, sur l'intégralité du département, pour le bassin, on a organisé ces manifestations par bassin. Donc pour le bassin de Mantes, on a fait jouer une 30aine de groupes sur 3 jours, et qu'on réunit pas mal de monde en termes de public. Alors il y a Bonnières, Rony, Magnanville, Mantes-la-Ville, sur 6 lieux différents.
De scène municipale ?
Pas nécessairement. Un travail de lien entre des services culturels, des associations, et c'est tout d'ailleurs.
Arnaud ? Donc je continue sur les musiques actuelles peut-être. Nous, allez. Avec le focal habitant.
La focale.
Donc, ça, c'est pas très original par rapport à ce que Eric a décrit, puisque donc nous à la MJC de Pontaut-Combault, on est effectivement sur différents projets autour des musiques actuelles, enfin un projet de diffusion notamment. La participation des habitants, elle se fait surtout par l'engagement de jeunes bénévoles dans la commission. Qui programme et qui organise les concerts. C'est-à-dire que les concerts et toute leur organisation à la MJC est conduite par un coordinateur d'activité, mais avec une commission d'une 20aine de jeunes, pour la plupart lycéens ou anciens lycéens de Pontaut-Combault, et donc de la programmation jusqu'à l'accueil des artistes, l'organisation des concerts, l'accueil du public, tout est géré par les bénévoles. Donc ça, c'est une première idée pour que la population réellement s'approprie ce projet-là, ce qui fonctionne bien en termes d'engagement pour ces jeunes-là, qui eux sont des relais bien évidemment, notamment par l'intermédiaire du lycée, pour faire venir du public, même si ça reste compliqué de faire venir du public, sachant qu'on a en plus des conditions matérielles et techniques qui sont pas toujours évidentes. Aujourd'hui, on est en train de travailler en lien avec la municipalité autour d'un projet c'est plus un projet de construction, l'ouverture en janvier 2010 d'un pôle culturel municipal qui au départ, il y a à peu près 10 ans, au départ du projet devait être dédié aux musiques actuelles, donc avec 3 studios de répétition et une salle de spectacle. Aujourd'hui, on sait que la salle de spectacle sera équipé de gradins non rétractables, donc pas forcément évident pour la diffusion des musiques actuelles, avec aucune fosse. Et quant aux 3 studios de répétition, il y en a un qui a été déjà récupéré par l'harmonie municipale, les 2 autres vont être gérés par le conservatoire, département musiques actuelles. Néanmoins, on ne sait pas encore aujourd'hui s'il y aura une isolation phonique, une batterie et des amplis dans les studios. Voilà où on en est. Donc on travaille beaucoup avec les moyens du bord, nous, à la MJC, mais on s'appuie beaucoup sur le réseau Pince-Oreille auquel on est adhérent, donc qui est l'équivalent du CRI pour la Seine-et-Marne, où là, dans l'accompagnement des groupes locaux, donc là on est bien sur des groupes amateurs ou pour certains en voie de professionnalisation, on s'appuie sur le réseau et notamment sur d'autres salles, les salles de musique actuelles du département. Voilà pour ce qui est des musiques actuelles.
Est-ce que vous avez des liens avec les équipements plus les équipements dont on a parlé hier sur les pratiques culturelles des habitants de Gennevilliers? Est-ce que vous avez des liens avec la scène nationale, le CDN, le...
Alors sur Pontault-Combault, on a des liens avec les équipements municipaux, enfin conservatoires, pour en ce qui concerne les musiques. Mais depuis, enfin moi, ça fait 6 mois que je suis en poste. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de partenariats entre la MJC et les équipements municipaux jusqu'à maintenant. Donc là, on est en train de travailler ensemble. Enfin, je participe maintenant moi aux réunions de la direction des affaires culturelles. Donc on progresse dans ce sens-là, il y a des partenariats possibles. Donc là, pas uniquement sur les musiques actuelles, hein, sur tous les projets artistiques et culturels qu'on peut développer. Mais sur les musiques, là, pour le coup, il n'y a pas d'équipement sur Pontault-Combault pour le moment, et on travaille vraiment, du coup, sur le réseau départemental. Donc ce qui nécessite quand même de la part des groupes locaux une mobilité que certains ont et certains n'ont pas. Et en même temps, ça nous permet aussi, nous, d'accueillir dans la programmation des concerts, ce qu'on diffuse, on diffuse quand même donc des concerts dans une des salles de la MJC. On a à peu près 9 ou 10 dates dans l'année. Et donc d'accueillir d'autres groupes semi-professionnels du département. Donc pour l'instant, sur les musiques actuelles, on s'appuie sur le réseau. Après, il y a d'autres projets, notamment sur la danse, qui est un projet très fort au sein de la MJC, qui s'appuie sur d'autres compétences.
Dernière petite question à laquelle je voudrais avoir une petite réponse, c'est la question de la diversité des publics, c'est-à-dire est-ce qu'on a uniquement le public concerné ou est-ce qu'on a du transgénérationnel, du etc., etc.
On a un public de 15 à 25 ans à peu près, 15 à 22 ans même. C'est-à-dire que la programmation dépendant aussi de ces jeunes bénévoles, forcément, il y a une programmation qui est quand même relativement éclectique, puisque ça va de la chanson au métal, mais avec quand même beaucoup de choses autour du rock, du punk rock et du métal, et du coup un public qui est relativement homogène. Voilà, pour le coup, c'est vrai que il y a eu la tentative d'un plateau rap l'année dernière, ça a été un fiasco, donc on a un public qui est assez homogène de ce point de vue.
Merci. Donc, si tu veux bien passer le micro à Grégory, parce qu'on va changer de point d'attaque de la question. Donc, je vous rappelle la question. Comment est-ce que chacun des secteurs inscrit la création sur son territoire avec la préoccupation des habitants? On est sur cette question-là. Merci.
D'accord. Alors, moi, quand j'entends parler de création, je pense pas forcément à la diffusion d'œuvres récentes, mais bien au processus de création et comment on l'intègre dans les politiques culturelles, notamment. Donc moi, là-dessus, j'ai eu des expériences assez cuisantes, assez désagréables, puisque j'ai participé donc à la mise en place, en fait, d'une compétence culturelle au sein d'une communauté d'agglomération, donc celle du plateau de Saclay. Pour vous donner je suis obligé de faire ce bref raccourci, mais j'étais tout seul en 2003, et maintenant nous sommes 230. Et 20 établissements. Donc, vous voyez la montée en puissance. Donc, à plusieurs moments, j'ai souhaité, dans le cadre de cette construction communautaire, faire en sorte que la création fasse partie du projet de territoire et questionne en quelque sorte les politiques publiques à un moment ou à un autre. Alors, quand je suis arrivé, il y avait un projet en cours qui était dans le cadre d'un programme qui s'appelle Nouveau commanditaire de l'art, qui est piloté par la Fondation de France, et qui a permis de financer notamment une création contemporaine d'une artiste qui s'appelle Jessica Stockholder et qui a fait une sculpture dans le parc de l'IHES, qui est un institut d'haute études scientifiques qui se trouve à Bure-sur-Yvette, et qui est associé à la MJC de Chilly-Mazarin. Malheureusement, cette œuvre est enfermée dans un parc et il n'y a absolument pas de public. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'est réalisé. Quand je me suis penché sur la culture scientifique, donc on a mis en place un appel à projet, etc., bon, pour la fête de la science, on a initié la création d'un centre de culture scientifique. J'ai souhaité mettre en place des résidences artistiques dans des laboratoires de recherche. Donc j'ai été rencontrer des chercheurs un petit peu braques qui avaient une approche par ailleurs artistique dans leur vie, enfin dans leur pratique personnelle. Et je me suis dit, et pourquoi ne pas rapprocher finalement le processus de création artistique du processus de recherche, puisque je me suis dit finalement le chercheur c'est un artiste, il est là pour découvrir des choses nouvelles, etc. Bon, non, mais ça a très très bien marché, c'est-à-dire que j'ai rencontré des chercheurs à l'ONERA J'ai rencontré des artistes, etc. On a commencé à trouver des pairs artistes chercheurs. J'ai monté le projet, etc. Et je suis arrivé devant mes élus avec un projet super ficelé, cohérent, avec une vraie démarche aussi bien en matière de recherche que de création artistique. Et là, j'ai fait un flop le plus total. C'est-à-dire que les pédagogues qui revendiquaient la culture scientifique ne voyaient absolument pas quel était l'intérêt finalement d'aborder la science à travers l'art. Donc il y a un débat de fond qui est récurrent, et je pense que ça participe aussi de l'échec des actions qui sont menées. Donc ça, je l'ai expérimenté, éprouvé, etc. Bon, c'était une fin de non-recevoir, même si finalement les projets étaient assez simples à mettre en œuvre. Donc on avait un jongleur qui était susceptible de travailler avec un atelier du STAPS un laboratoire de recherche du STAPS qui travaillait sur le sport, etc. Enfin, donc là, il y avait un lien assez évident. Et on avait un artiste sculpteur qui travaillait sur la mécanique des fluides et qui aurait pu travailler avec un laboratoire de l'ONERA, donc qui fait de la recherche aérospatiale, etc., sur notre territoire. Donc ça a été un flop total. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre expérience ? Par rapport au conservatoire, donc on a 5 conservatoires d'enseignement artistique, dont un conservatoire à rayonnement départemental, un à rayonnement intercommunal, etc. J'ai été sollicité par plusieurs structures qui font de la recherche sur la nouvelle instrumentation. Sur, alors bon, il y a des choses peut-être que vous connaissez ici, comme Pusmuse, qui tournent un petit peu peut-être en rond, enfin d'une certaine façon, dans leur démarche. Bon, je sais pas, mais c'est pour vous donner quelque chose de connu. Il y en a d'autres qui sont moins connus, comme Art Tactile, mais qui marchent très bien. Bon, bref, voilà, ils étaient associés. Il y a eu scission. Bon, donc moi, j'ai travaillé avec ces gens-là et je me suis dit, mais c'est génial, on est sur un territoire de recherche, Plateau de Saclay. Nous, le titre de notre projet de territoire, c'est l'excellence dans tous les domaines. Hein, donc territoire d'excellence, l'idée d'avoir une Silicon Valley à la française, voilà, à deux pas de Paris, etc. Bon, donc je me suis dit, génial, on est en plein dans le projet de territoire, on transfère 5 conservatoires. Forcément, on va pouvoir travailler sur ces logiques-là et financer des actions de création sur notre territoire, faire des partenariats, etc. Bon. Donc, à l'issue des transferts, j'ai commencé à questionner un petit peu les directeurs de conservatoires en disant ben, on va travailler sur les projets d'établissement et puis on va essayer de créer un projet d'enseignement artistique à l'échelle du territoire. Et puisque une des préoccupations de notre territoire, c'est notamment l'innovation, la recherche, on va essayer d'introduire cette notion dans le projet d'établissement et donc dans le projet intercommunal. Donc jusque-là, tout allait bien. Et puis, bien sûr, les choses se sont compliquées quand on a commencé à remettre en question, en quelque sorte, le schéma traditionnel d'enseignement, les textes, etc. Donc on rentrait plus du tout dans les cases et ça a été compliqué. Ce que je proposais, moi, c'est qu'on crée un département qui aurait été un département recherche et création, à côté du département, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a comme département Oui, c'est ça, voilà, bon. Donc, voyez, c'est un petit peu ce genre de démarche que j'ai essayé d'initier, et les conservatoires disaient, c'est sympa, mais concrètement, nos missions premières, c'est ça. Et quand on aura le temps, quand on aura les moyens, quand etc., on pourra peut-être développer cet aspect-là. Bon, ce qui m'a pas empêché en fait de par d'autres biais. Donc, vous voyez, c'est un jeu, quoi. Enfin, moi, je passe mon temps à jouer avec les dispositifs. Donc, par de l'aide au projet, des subventions, etc., j'ai pu financer l'intervention, par exemple, de Pusmuse dans les conservatoires sous la forme d'ateliers pédagogiques avec des joysticks, la métamallette, etc. Enfin, vous connaissez le principe. Donc ça a été une autre expérience. J'ai pu placer des coproductions ponctuellement. Et ce que j'essaye de faire, c'est... j'ai été sollicité, par exemple, pour la création d'un pôle des arts de la rue. Donc là, pareil, j'ai étudié le projet avec la compagnie, etc. La DRAC était partante, la région était partante, le conseil général était partant. On avait la compagnie. Je trouve une ferme qui appartient donc à notre communauté d'agglomération qui est en ruine. Et je dis, bah, c'est génial, on va squatter la ferme. Et puis, en attendant que le projet de rénovation du bâtiment, etc. ait lieu, ça nous donne un point d'ancrage et on peut commencer notre résidence. Parce que pour avoir une résidence, il faut déjà avoir un lieu. Bon, bah là, c'est pareil. Les élus sont dit, vous êtes gentils. Sur le principe, on trouve ça intéressant. L'idée d'avoir une compagnie en résidence qui travaille sur le territoire avec les habitants, bon, là, on est en plein dans ces sujets-là. C'est tout à fait passionnant. Par contre, on est obligé de s'engager sur 5 ans, 7 ans. Ça coûte temps, etc. Donc là, fin de non-recevoir également. Donc en gros, dès qu'on questionne ou on titille un petit peu l'institution dans son fonctionnement par rapport à ce lien à la création, ça devient toujours très compliqué. Souvent, ça prend la forme d'aspects financiers, matériels, etc. Mais je pense que le principe même de non-contrôle du processus de création, la liberté qui est donnée de questionner justement les formes habituelles, etc., pose problème au niveau politique. Mais c'est pas une critique, hein, c'est un principe, quoi. Ça pose c'est un constat, voilà. Donc ça pose un problème politique, voilà, qui me dépasse très largement. Alors, du coup, pour finir, dans le cadre de la diffusion, du coup, j'essaye de placer par-ci par-là des choses. Donc là, par exemple, on organise une manifestation avec le réseau des bibliothèques médiathèques, puisque nous en avons 12. J'ai commandé un travail d'écriture pour un spectacle. Et donc, le travail d'écriture va se faire sur la réalité de la lecture publique sur notre territoire. Enfin, c'est des petites brèches qui vont nous permettre, donc là, sur ce travail d'écriture, de nous adresser au public. Bah là, c'est une compagnie, vous voyez. Donc, on va faire. C'est tout simple. On fait une balade comptée le long de l'Yvette, etc. Bon, et j'ai demandé à la compagnie qui va travailler là-dessus d'avoir un regard critique sur ce que représente la lecture publique, ce que représente le livre, les questions qui nous sont posées par rapport à la dématérialisation, etc. Donc, du coup, le point de vue, ça va être la compagnie se place dans 100 ans et on amène le public à revivre notre époque. Voilà, donc c'est un regard un peu distancé, critique, qui va amener aussi les professionnels participent à l'écriture, donc ça les amène à cogiter, à questionner leurs pratiques, etc. Et le rendu va être fait vis-à-vis du public, donc potentiellement les gens qui fréquentent les lieux, qui fréquentent leurs équipements. Non, c'est une balade, c'est en extérieur. Hein, donc là, c'est en extérieur. Voilà, et j'essaie d'inviter aussi, là par exemple j'invite des auteurs contemporains pour des rencontres, des signatures, des choses comme ça, mais du coup on n'est pas dans l'esprit de rencontres réelles, de création sur le territoire, dans un processus partagé entre les structures, les habitants, etc. Voilà, bon, c'est dur, quoi.
Et c'est moi qui vous dis de prendre le micro. Alors, qui elle donc est directrice de l'ARIAM Île-de-France et donc nous parle, elle, d'un autre point de vue. Hein, c'est comment on inscrit alors, elle, la création sur le territoire d'Île-de-France.
Alors, on va parler à deux voix, hein, avec Denis Cugnot. Donc, je vais faire très très court. Les habitants, c'est pas notre public direct. C'est un public par ricochet, comme on dirait. Et je dirais, à la limite, il y a deux ricochets, en fait, avant d'arriver aux habitants. Vous savez que l'ARIAM est une structure qui travaille sur le conseil, l'accompagnement, la formation, les rencontres, mais avec des professionnels. Donc, en fait, notre façon d'essayer de donner la préoccupation, disons, de la création à tous, c'est à travers les professionnels qui travaillent avec nous. Voilà, donc en fait, il y a d'abord les professionnels et ensuite les habitants. Mais ceci dit, c'est important. Et donc là, dans ce domaine, on fait quand même beaucoup de choses, évidemment. Les professionnels, c'est à la fois les enseignants, ceux qui enseignent, que ce soit l'éducation nationale, les enseignants, disons, dans les milieux de MJC, centre d'animation culturelle, ou que ce soit les enseignants, bien sûr, des conservatoires. Donc là, on essaye de donner des occasions de proposition de formation, et dans lequel la création, évidemment, est présente, que ce soit les professionnels qui encadrent les pratiques artistiques, donc je dirais les responsables de groupes, hein, que ce soit des responsables de groupes de musique actuelle, des responsables de chœur, d'orchestre et autres. Et puis, bien sûr, on travaille avec les acteurs culturels, les directeurs de structures, les responsables de réseaux. Et dans ces différents domaines, on essaye de proposer, on est quand même très, très, très actif pour que la création soit présente. Que ce soit des commandes, que ce soit alors à des compositeurs, parce que nous on est dans le domaine de la musique, hein, que ça soit des commandes, que ça soit des accompagnements de projets, que ça soit la découverte du répertoire, que ça soit, je ne sais pas moi, une rencontre avec un compositeur. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'occasions de formation qui sont proposées par l'ARIAM. Mais donc les habitants, c'est ensuite. Voilà, pour dire vite, très vite.
Oui, deux choses par rapport à Grégory, enfin, qui a pas présenté complètement ce territoire que j'ai connu dans une autre vie, mais qui est quand même le territoire donc du CNRS, de la Fac d'Orsay. Enfin, c'est la Silicon Valley, elle est déjà là. Et alors là, il y a un paradoxe. Et si on pense si on avait des élus, enfin, sans les flatter, comme Burgos, Perard ou Couffini, dans ce territoire, c'est un territoire de très haut niveau intellectuel. Et là, on est dans un truc où. Mais un truc de fou, c'est-à-dire de démagogie populiste, disant mais non, les habitants ne veulent pas ça, alors que les habitants, c'est ingénieurs, chercheurs, techniciens de haut niveau, dans des grandes institutions prestigieuses, plus la fac. Donc là, on est dans un truc.
Ils ont des sous aussi.
Oui, bien sûr, mais. Non, non, mais c'est-à-dire, c'est quand même des villes.
Non, mais l'agglo, elle vit de la taxe professionnelle et les centres de recherche ne payent pas de taxe.
Oui, oui. Non, non, mais c'est. Donc là, on est sur des habitants qui normalement seraient, mais ils sont dans leur vie évidemment curieux. Voilà, donc c'est juste une notation parce que là, on est dans des catégories pas uniquement sociales, intellectuelles, et on a des élus qui sont d'une démagogie. Enfin, c'est comme si on était en zone rurale, avec beaucoup de respect les zones rurales, j'adore. Mais enfin bon, ça. Et autrement. Donc moi j'ai vécu, alors c'est pas avant d'être à l'ARIAM, une expérience justement dans l'Essonne par rapport aux habitants où très vite les élus ont décidé de changer la ville ou de structurer la ville par l'art et la culture artistique. Alors ça avait été rendu possible par le travail du conservatoire que je dirigeais, mais on est arrivé sur une ville de 7600 habitants à 1200 élèves. Et maintenant 1500 et du territoire. Et là, l'idée des élus, mais qui avait été impulsée par des techniciens dont je faisais partie, c'est-à-dire faire les preuves pédagogiques, c'était vraiment, on change, on structure la ville. Ça revient un peu à ce qu'Hervé Perard disait sur Évry, une demande quand même de fête. Donc on a fait feu de tout bois, à la fois le répertoire, la fête, beaucoup de fêtes, et aussi des créations. Alors, création pour ou avec les habitants, en particulier en théâtre ou voilà. Donc on a vu une expérience incroyable qui continue où les élus ont donné finalement beaucoup de moyens, mais avec une vraie idée politique. Mais c'était rendu possible parce que c'est pas une ville de 100 000 habitants, parce que voilà, tout le monde c'est pas transposable et modélisable. Mais l'idée d'élus qui décident, on structure la ville autour. Et pas de la culture scientifique, de l'art, des valeurs et des pratiques artistiques. Voilà. Donc à partir de ce modèle, à l'ARIAM, quand je travaille ou dans le rôle de rencontre avec les directeurs, j'essaie de les motiver pour obtenir la même chose.
Peut-être une autre. Je vais peut-être donner la parole rapidement à Yacine, qui lui est encore une fois.
Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a.
Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et il va nous raconter. Donc, comment il inscrit dans sa réalité territoriale, hein.
Il y a juste le préalable que tu ouvrais sur la discussion, sur la question de la complémentarité. Oui. Ça me posait question. J'ai pas le petit Robert et je ne maîtrise pas les racines latines ni égyptiennes du mot. Moi, je me pose la question. Enfin, je me pose la question. Tout notre travail, il essaye d'être justement dans cette question de complémentarité. Mais je me dis, moi je suis un opérateur associatif, d'être dans cette démarche de complémentarité. Est-ce que c'est là où aujourd'hui j'ai l'impression que je la force dans notre point de départ. Donc on a un ancrage de la Seine-Saint-Denis, donc je dis pas qu'on crée en Seine-Saint-Denis, de la Seine-Saint-Denis sur une démarche hip-hop. Où le principe, c'est à partir des codes, populaires, la télé, tout ça, il y a une production d'une forme d'intelligence qui recrée du code, et dans un cheminement, du socioculturel au lieu labellisé. Donc on a, nous, un temps qu'on essaye de porter, c'est-à-dire toute l'année, on accompagne sous forme d'une structure d'appui des démarches de création, et on a un temps dans l'année, sur plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, où on essaie de sensibiliser des lieux qui vont du CND, Centre National de la Danse, à la maison de quartier sur le processus de création dans des démarches d'auteurs au sein du hip-hop. Alors faire du hip-hop en Seine-Saint-Denis, ça pourrait paraître démago, c'est un peu l'attaque qu'on a. Après, quand on dit qu'on fait de la démarche d'auteur, on accompagne de la démarche d'auteur au sein du hip-hop, c'est un autre chemin. Et aujourd'hui, par rapport aux populations, je pensais là en rebond, je me demande si aborder de manière homogène une population, il n'y a pas une question excluante. Je me demande si elle est aussi homogène que ça, la population de Saclay, comme la population de Seine-Saint-Denis, elle est stigmatisée sur un profil et toutes les visées de lien à la création vis-à-vis de ces populations. Elle est sur cette question d'homogénéité. Nous, on part du principe sur la question de la création. Je l'ai entendu hier, c'est qu'on souhaite pas, avec notre jeune histoire, que nous soient créés des lieux spécifiquement dédiés. Parce que on va dire que le mouvement dans lequel que j'accompagne, il est dans un besoin de reconnaissance. Je l'ai aussi entendu hier par les pairs. Et que leur envie de représentation, il est somme toute traditionnel dans un rapport frontal avec, voire dans le lieu où il y a la loge du préfet et la loge et l'autre loge en face. Donc c'est pas la même démarche qu'ont pu avoir par exemple les musiques actuelles, qui à un moment donné dans le rapport scène-salle cherchaient une autre posture debout avec un bar dans un. Donc nous, aujourd'hui je dis ça parce qu'il y a une tentation. Aujourd'hui, qui est forte, exprimée dans le milieu que j'accompagne, que nous soit créé, j'ai envie de dire de manière caricaturale, nos propres ghettos. Alors que je trouve que l'ensemble des équipements aujourd'hui qui sont sur le, en tout cas le territoire que je croise au quotidien, mais ça rayonne aussi au-delà du territoire, ils ont, comment dire, nécessité d'ouverture à notre expression. Après, la question que ça pose. C'est quelle entrée il y a sur cette ouverture-là. Si tu parles le langage des signes, Chantal. Oui, non, mais juste deux trois années. Enfin, une anecdote. Les questions que je me pose, c'est comment envisager la. Par exemple, quand on fait de la programmation danse hip-hop, des fois, moi, je défends de dire on fait de la programmation danse. On marque sur le programme programmation danse de manière un peu taquine parce que ça veut dire que ça cible, quand on dit hip-hop, ça cible quelque chose. Et puis tes signes, je rebondirai après parce que je voulais dire d'autres choses, mais.
Une chose me paraît importante, c'est comment tu écris. Par exemple, quand tu dis tout à l'heure que tu as une population qui peut être. Bon, tu es sur le hip-hop, tu es sur la Seine-Saint-Denis. Il y a quand même il peut y avoir des clichés, des habitudes, etc. Quand tu proposes aussi de la création même à ce public-là, c'est pas évident.
Sauf que la démarche aujourd'hui, moi j'appelle ça, on a l'impression qu'il y a de l'immaculée création dans notre champ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est que ça sort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux dire, tu fais de la. Il y a un doux rêve qui est propre au hip-hop, c'est de dire on crée, dans une lecture, il y a une urgence à dire, il faut qu'ils disent quelque chose. Y a pas, on réunit rarement les conditions de la création professionnelle et il y a le doux rêve du hip-hop qu'on va vivre après de la diffusion et c'est sur ce secteur de la diffusion qu'on va être professionnel. D'autant plus sur le champ de la danse, c'est-à-dire que nous, on emmène avec nous des problématiques qui nous dépassent. Quand tu veux vivre de ton art sur le champ de la diffusion et en étant en plus dans la danse, là, tu te fais vraiment une utopie. Donc, moi, la question qu'il pose, c'est la population aujourd'hui, voilà, sur un mouvement qui lui est propre, quelle valeur on donne au code, voilà, qu'elle présente, ce qu'elle a envie de dire, en sachant qu'on est aussi dans quelque chose de générationnel, ça peut être aussi la parole de la jeunesse, sachant que le hip-hop aujourd'hui est quand même des quadras, largement quadras, et ça continue de toucher la jeunesse. Donc on est dans un ensemble d'enfermement. Et après, moi, la question de la complémentarité, c'est que je l'ai dit de manière un peu provocatrice, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi nous, on poursuivrait l'effort de se placer dans un truc de complémentarité quand toutes les autres démarches ailleurs et les autres, ils ne sont pas dans cette volonté-là. Et c'est ça, à terme, on risque d'être sur quelque chose qu'on postule pour qu'on nous recrée nos propres ghettos en termes d'espace.
Merci beaucoup. Alors peut-être encore. Je voudrais juste encore une parole peut-être en direction. Tony, tu t'en vas ? Alors voilà.
Je suis désolé parce qu'après j'ai des cours dans l'après-midi. Je suis obligé de les assurer. Très rapidement, je vais essayer de faire très court là-dessus. L'Union départementale des MJC du Val-de-Marne. On est sur le territoire du Val-de-Marne. Hein. On n'a pas de public en particulier, mais nous avons un événement qui est important et qui met en lien tous les acteurs qui travaillent avec nous, c'est-à-dire toutes les MJC et les associations qui reconnaissent l'éducation populaire, qui sont en lien avec nous, c'est le festival Vive la rue. C'est un festival annuel donc, qui a lieu maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est la 11e édition, sur une dizaine de villes du Val-de-Marne. Et ce festival-là, essaye de lier l'événementiel à la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, on amène des spectacles de compagnies professionnelles de qualité au cœur des quartiers. C'est-à-dire dans les rues piétonnes, dans les parcs et jardins, sur les parkings. Enfin, on se réapproprie, on tente en tout cas, de se réapproprier l'espace urbain et de le présenter autrement. Aux habitants. Alors, quelle est la place des habitants dans ce projet-là ? Une place multiple, dans un premier temps, c'est nous fonctionnons par le biais des MJC, qui sont en lien avec des associations locales. Nous les encourageons à nous proposer des projets de pratiques amateurs pour qu'on puisse avoir, en même temps que des compagnies professionnelles, on puisse avoir aussi des pratiques amateurs et de permettre la relation entre les deux. Et ça peut aller... Il y a un accompagnement financier, évidemment, qui est fait, mais il y a aussi un accompagnement technique, etc., pour leur permettre d'aller vers un peu plus de travail, de rigueur dans leur projet et d'avoir un regard, en tout cas dans le cadre des arts de la rue. Donc voilà, il y a ce premier contact là. Et ça dure quasiment toute l'année. C'est-à-dire que le projet est établi dès septembre, octobre, novembre à peu près. Et puis ça s'est mené dans les centres, les MJC, c'est mené jusqu'au mois de mai. Et ensuite, il y a la présentation, etc. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième, c'est que étant donné que ça se passe dans les quartiers, nous avons aussi besoin de la participation des habitants à différents niveaux. Alors ça peut être simplement dans le sens où je prends l'exemple des comités de quartier qui sont en lien avec les MJC et qui nous accompagnent sur le projet, qui donc vont recevoir les artistes et vont être aux côtés des professionnels, des bénévoles qui vont devenir en quelque part des ambassadeurs du festival, puisqu'ils vont avoir un rôle particulier, puisqu'ils vont recevoir les artistes. Et donc il y a un travail d'accompagnement qui se fait. Et puis eux essayent d'avoir, en dehors des pratiques amateurs, des propositions, souvent de repas de quartier, souvent d'accompagnement simple, de présence sur le festival. Et il faut savoir que dans le cadre des arts de la rue, le public n'est pas un public passif, c'est un public qui est en lien. Il y a une interaction qui se fait de façon particulière avec l'artiste et son spectacle et les habitants. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que c'est pour nous un enjeu important que d'amener l'art, enfin les pratiques professionnelles, la culture au cœur du quartier, et puis de faire en sorte que ça génère du lien social, du lien social, en même temps que ça participe à une redécouverte, enfin pas forcément une redécouverte, mais en tout cas une autre vision de l'utilisation de l'espace urbain. Et ça se traduit très souvent par des projets de décor qui sont faits par les habitants de leurs immeubles ou simplement de la place, etc. Donc il y a des projets comme ça qui émergent. Et à ce moment-là, nous, ce que nous proposons à des artistes, des plasticiens par exemple, d'accompagner ces projets-là et de voir de quelle manière est-ce qu'il peut y avoir un lien avec les habitants et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui sorte de ce projet-là. Et donc ça dure, alors on va dire entre le temps que le projet mûrit, ça dure entre décembre, entre fin novembre, décembre, jusqu'au mois de mai. Voilà, pour essayer de voir un peu ce qu'on fait.
Merci, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut lancer le, on peut lancer, puis après on voit comment ça tourne, parce qu'il nous reste, oui, on a une heure, on finit. Alors, est-ce que tu avais des questions?
Non, juste pour frimer un coup. Complémentarité, complémentaire, complément, complémentum, complairé, accomplir. Voilà. J'ai cherché sur le net, hein, j'ai pas ça dans la tête. Il y a un vrai problème pour les collectivités territoriales qui, en fait, ne représentent pas un territoire, mais une agrégation de territoires. Le vrai problème, c'est souvent pour les élus, c'est la lisibilité de leur politique culturelle. Et là, il n'y a pas encore de solution vraiment trouvée. C'est pas vraiment très clair. On va demander aux habitants. Non, mais on a monté à Bordeaux avec la FNCC un colloque là, sur cette question, par exemple, de l'intercommunalité. Et en fait, on a vu des élus assez déstabilisés sur toujours la recherche, eux, parce qu'ils sont élus d'un territoire, d'une certaine identité de territoire, qui étaient confrontés en fait à des usages qui dépassaient très largement le territoire. Et ce qui fait que je synthétise et je vais vraiment très vite. Hein. Je regarde Hervé parce qu'il est, je ne sais pas si tu y étais. Et en fait, on s'aperçoit que moi je pense que le fait que les élus intercommunaux soient pas élus au suffrage universel n'arrange pas non plus les choses. Hein, ça c'est clair. Voilà. Je voulais revenir un peu là-dessus. C'est pas que j'apporte des réponses, mais c'est un problème qui est réel et qui existe vraiment. Il y a aussi à l'intérieur des collectivités territoriales un fossé énorme entre l'élu à l'urbanisme, l'élu en charge de la culture. Et on retrouve ce fossé énorme dans les services, c'est-à-dire que les services de la culture ont d'énormes difficultés à avoir une intervention dans l'espace urbain et à pouvoir interroger en fait le projet urbain. Et c'est pour ça que hier, Crozier est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, parce que la stratification, là, on est vraiment dedans. Je voulais faire encore une fois la différence aussi entre pratique amateur, c'est un peu de sémantique, enfin un peu de sens, et pratique en amateur. Et je crois que s'il y a un projet de loi sur les pratiques amateurs, c'est parce que justement, ce ne sont pas les pratiques en amateur. C'est-à-dire que et si on peut ramener les pratiques amateurs à loisir, c'est parce qu'il manque le « en », justement. Hein, donc, si, parce qu'on peut être un professionnel de la profession et avoir une attitude bénévole tournée vers des amateurs. Or, le projet de loi tel qu'il est présenté par la CGT du spectacle, c'est d'interdire cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est obtenir du salariat systématique pour les professionnels. C'est-à-dire qu'ils se bloquent eux-mêmes.
Pour les amateurs.
Non. C'est-à-dire qu'un professionnel qui apporte une forme de bénévolat, c'est-à-dire qu'il ne va pas se faire rémunérer dans un cadre de pratique en amateur, il va être dans ce moment-là dans un cas en amateur, ne pourra plus le faire. En fait, c'est un peu ça l'idée qui est derrière. Hein. Donc, il va falloir qu'on travaille beaucoup cette notion de pratique amateur en pratique en amateur. Je voulais faire cette parenthèse-là. Deuxième parenthèse que je voulais faire par rapport à hier aussi. Il faut absolument qu'on prenne l'habitude, en particulier puisqu'on voit qu'aujourd'hui on peut parler des publics. Moi je me souviens, il y a entre 2001 et 2003 à la FNCC, quand on recevait le spectacle vivant, pour ne pas le nommer par exemple le Syndéac, on n'avait jamais de discussion sur les publics. Aujourd'hui, c'est un débat qui est ouvert, qui est admis par tout le monde, personne ne se sent vraiment remis en cause, et il y a vraiment une bonne évolution. Alors, il faudrait qu'on arrive à la même chose avec l'évaluation. C'est-à-dire que souvent on parle d'évaluation, mais en fait on ne parle pas d'évaluation, on parle d'étude d'impact. Or l'évaluation, en fait, c'est une méthodologie qui se passe avant, pendant et après le projet. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut aussi qu'on banalise cette connaissance-là. Voilà. Et puis enfin, entre la richesse des territoires et la non-richesse des territoires, il y a quand même des exemples absolument extraordinaires. que je cite toujours, c'est celui de, pas de Ponto Combo, mais de Ponto Mur, qui est en Puy-de-Dôme, où en fait, moi j'ai découvert, c'est un bourg qui doit faire 1000 à 1500 habitants en plein cœur du centre de la France, une église du 19e, début 19e, assez moche. Et dans cette église du 19e, il y a un orgue baroque qui est la copie conforme du temps de Bach, de l'orgue de Bach. Et il y a donc Bach en Combrailles qui existe. Ce truc a coûté, je crois, 5 millions d'euros, qu'évidemment la commune ne pouvait pas payer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, effectivement, il y a la possibilité de monopoliser, alors là, pour le coup, les différentes collectivités territoriales pour conduire à bien un projet comme ça. Alors c'est des projets qui sont sur 10 ans, 15 ans en vue de réalisation. Quoi. Voilà. Je voulais, donc il faut savoir des fois prendre le temps et surtout garder le lien avec les élus constamment. Quoi. Ça, la difficulté.
Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire?
C'est plus des questionnements. Dans ce qui a pu être dit pour l'instant, de ce qui est ressorti, c'est que par rapport à cette problématique de création, il me semble que il faudrait peut-être aller un peu plus loin dans la réflexion sur l'analyse du processus qui conduit à... Et derrière, parce qu'on disait, nous on veut bien, mais les élus ne veulent pas, ou alors la question de la complémentarité, enfin bon, il me semble qu'il y a quelque chose là à creuser autour de cette question-là. Et derrière, quelle peut être la place de ces différents acteurs dans ce processus? Et la place des élus, des professionnels, des... Ben, plusieurs reprises dans les prises de parole... De ce matin, il y a à la fois des volontés de mettre en place des actions, et on se heurte à un moment une incapacité d'élus à comprendre la chose, sous une excuse financière ou pas, à un moment sur le débat de la complémentarité ou pas des actions, de qui est amené à l'échelle des territoires à travailler sur la cohérence. Et en même temps, ça rejoint aussi la question directement du public sur... la question de la segmentation des publics, moi je trouve qu'on est passé un peu vite sur cette question-là, sur la question de la segmentation des publics. On peut être dans un rapport d'utopisme où chaque homme, je ne sais plus comment on dit, un homme honnête, serait ouvert à l'ensemble des arts et accepterait. Bon, et en même temps, sincèrement, je dois faire mon âge, mais moi, je n'ai rien à faire d'aller à un concert de hip-hop. Ça ne m'amuse pas et ça ne me fait pas plaisir. Bon, je prenais la petite porte, mais c'est-à-dire, comment on travaille sur cette question de segmentation des publics, des pratiques à travers ça? Et faut-il ou pas, j'en sais rien, moi, mais faire bouger les frontières, ou du moins, quels sont les enjeux? Et peut-être que cette question-là... d'enjeux en tant que faire bouger les frontières ou en termes de rapport au public, et aussi peut-être une des façons d'interpeller les décideurs sur un territoire, qu'ils soient élus ou fonctionnaires culturels, parce que je pense que souvent la décision est plus liée aux fonctionnaires culturels qu'à l'élu lui-même, sur un certain nombre de réponses qui sont apportées. Est-ce qu'on est bien en mesure de bien mettre en jeu les enjeux, finalement, de positionner les enjeux sur ce qui peut se passer dans ces phénomènes de création et la base du public. Bon, après, et je finirai là-dessus pour l'instant, c'est que peut-être qu'on change, tu insistes là-dessus, peut-être qu'on est en train de changer d'époque par rapport à ça, même si d'autres le portaient avant. C'est-à-dire que ces dernières années, ces 20 dernières années, ce qui était premier, c'était le créateur. Ouais. C'était pas le public. Et là, on est peut-être en train de bouger sans automatiquement renier le créateur et le rôle spécifique du créateur, de l'artiste. On est peut-être en train de se reposer un certain nombre de questionnements par rapport à la place du public dans cette création. C'est aussi un peu le sens de notre...
Peut-être qu'on peut passer la parole à la personne qui est à droite, hein, et donc à partir d'un lieu parisien, comme oui. Le 104, comment on se pose la question...
Alors j'espère que je ne vais pas répéter des choses que Mathias a pu dire hier. Nous, c'est vrai que au départ, la ville de Paris avait le projet, ça s'appelait Art et Territoire en fait. Enfin, leur cahier des charges, leur idée, c'était vraiment de faire un lieu de production pour sortir un peu d'une politique culturelle paillette, enfin d'une vision comme ça. Donc nous, ça nous a beaucoup intéressé. On avait donc Frédéric Fisbach et Robert Cantara sont des metteurs en scène avec lesquels je travaille depuis longtemps. On avait pu expérimenter notamment deux choses, enfin non, peut-être même une chose. C'est à quel point on pouvait faire dans des quartiers, ils avaient tous les deux travaillé dans des quartiers différents, un travail avec des gens qui n'avaient jamais eu la moindre pratique ou consommation culturelle, avec de l'art contemporain en tout cas. On pouvait les intéresser à des textes compliqués, en les faisant travailler, en allant directement à leur rencontre. Donc l'idée, c'était de dire que l'artiste serait le meilleur médiateur, en fait, d'essayer d'être plus en direct, en tout cas.
C'était pas terriblement original.
Non, pas du tout. Hein. Non, je suis pas du tout en train de dire qu'on inventait le fun des choses, mais en tout cas, c'est vrai que les deux principes, c'était c'est l'artiste qui doit aller lui-même au contact du public, premièrement, et deuxièmement, en faisant pratiquer. Enfin, il y a un besoin, une envie de pratique qui permet peut-être justement d'intéresser des gens. Donc, le quartier du 104, c'était vraiment très intéressant pour expérimenter ça. Donc, au départ, on a travaillé, on a voulu justement être d'abord en fait rentré en contact avec le quartier, donc on s'est installé dans une boutique dans la rue qui est à côté du 104. On a invité des artistes en résidence qui ont fait des projets hors les murs dans le quartier. On a été faire du théâtre de rue dans les cités, des choses comme ça. Et puis ensuite le 104 a ouvert. Donc là, il y a certaines de nos ambitions qu'on réussit, d'autres pas. Et ce qui est surtout très frappant en fait, c'est que le 104 a été peut-être communiqué, notamment par la ville, comme aussi un lieu de promenade. En fait, c'est très grand, c'est un lieu de promenade, donc il y a énormément de gens qui viennent se promener. Et donc on a enfin rencontré le public dont on rêvait, nous, en tant que... Donc moi, j'accompagnais les artistes depuis longtemps, et on avait ce problème d'endogamie. Et on a enfin rencontré des gens qui viennent, en fait, par hasard. C'est très, très curieux. Ils viennent totalement par hasard. Et
ils viennent parce qu'il y a de la lumière ou...
Parce qu'il y a eu beaucoup de com', ça vient d'ouvrir.
Et micro.
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais bien sûr, ça nous intéressait beaucoup que ce soit justement une rue. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, c'est pas un hasard, mais on se disait que précisément s'il n'y avait pas une porte à franchir, enfin là encore, ça n'a rien de révolutionnaire, si on peut juste venir pour se promener, pour acheter sa baguette, on va accéder à l'art. Mais en fait, c'est très impressionnant à quel point le public qui donc rentre dans les ateliers, disons, qui participe aux propositions artistiques, effectivement, il était venu se promener. Parce que on aurait pu faire ça et les gens auraient pu seulement se promener, acheter leur baguette, et ne pas rentrer en fait dans les ateliers. Donc quand je dis rentrer dans les ateliers, c'est vrai qu'on a proposé diverses choses depuis, et notamment cette idée très simple d'ouverture d'atelier qui est pour montrer le processus en train de se faire, que le public peut rentrer dans un atelier et voir comment l'artiste travaille. Et alors ça, du coup, ça marche extrêmement bien, c'est assez impressionnant. Donc le public, c'est des petites jauges hein, souvent, et le public qui vient est très étonné, a l'air... extrêmement ravis, enfin, de la chance de pouvoir, en fait, discuter avec un artiste. Ils sont très étonnés. Ils disent, mais c'est vrai, mais on peut, mais vraiment. Enfin, c'est très étonnant. Et après, il y a des discussions qui sont très riches pour les artistes aussi. Parce que nous, c'était ça qui nous intéressait, c'était de se dire que les artistes qui viennent au 104 sont intéressés d'avoir une sorte de retour, enfin, de relation directe avec le public. Et que le public soit aussi intéressé. Et ça marche. C'est-à-dire que les artistes sont sidérés. Rencontrent des gens qui, n'ont jamais, enfin, je sais pas, moi, un réalisateur peut parler, enfin, lire une partie de scénario à des gens qui n'ont jamais lu le moindre scénario et qui font des retours complètement étonnants, qui les font en fait avancer plus vite dans leur travail, quoi. Donc, c'est l'idéal, c'est extraordinaire, on est très content. Il y a des gens qui reviennent, du coup, qui sont accros, qui suivent effectivement un artiste, qui vont le voir toutes les semaines, etc. Et puis, par contre, ce qui n'a pas marché, c'est que on voulait aussi. Il n'y avait pas seulement des ouvertures d'ateliers, il y avait aussi des rendez-vous, des moments plus où il fallait vraiment rester longtemps sur des propositions plus compliquées. Et donc ça, en fait, ça ne marche pas parce que comme les gens viennent par hasard, quand on leur dit ça dure une heure et demie, ils disent bah ça m'intéresse peut-être pas. Si on leur dit vous pouvez sortir au bout d'un quart d'heure, il reste une heure et demie. C'est ça qui est assez génial. Mais si a priori ils doivent rester une heure et demie, enfin, en tout cas, donc le public non habitué, puisque là je parle vraiment, enfin c'est pas des habitants, enfin c'est pas que des habitants, mais c'est plutôt un public, on va dire, non habitué. Donc, et puis on pensait que les ateliers de pratique, parce que justement on avait eu cette expérience, allait bien marcher. Et en fait, les gens ont pas forcément envie de pratiquer. Donc ça c'était intéressant. Alors après, quand je dis les gens, le public, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas très intéressant de parler de ça en général. Mais enfin, là, disons que on parle d'une. Ça va peut-être changer parce que le 104 vient d'ouvrir et puis qu'on essaie de travailler aussi pour infléchir des choses. Mais enfin, cet aspect-là, il est intéressant. Et enfin, ce que je voulais aussi dire, ce qui était assez amusant, enfin curieux peut-être, c'est que les artistes qui sont venus vers nous, en fait, enfin venus vers nous, qu'on a pour des demandes de résidence, pensaient, en tout cas, on a eu énormément de projets artistiques participatifs. C'est-à-dire que tous les artistes nous disaient, mais moi, je vais demander aux habitants du quartier de faire des photos, faire des vidéos. On s'est dit, non, mais les habitants du quartier vont en avoir ras-le-bol. Parce qu'à un moment, c'est pas parce que tu habites à côté du 104 que tous les jours, il y a un artiste qui vient te demander ce que tu penses de ça, te prendre en photo avec ta famille, te demander. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Les projets n'ont pas forcément, enfin c'est ce qu'on voit et ce qu'on essaye de faire comprendre, besoin d'être participatif en soi, c'est-à-dire de proposer vraiment aux gens de venir donner des choses ou d'aller chez eux. Et le public, en fait, préfère, ça, c'est, tout ça n'est pas très intéressant, mais enfin je suis vraiment juste en train de parler de quelques mois, hein, je fais pas des lois du tout. Finalement, le public va préférer venir vraiment rencontrer un artiste qui explique ce qu'il est en train de faire, pour éventuellement donner son avis ou revenir ramener quelque chose, mais pas forcément un protocole qui, dès le départ, serait participatif, comme on a souvent tendance à le voir ou le penser. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais m'arrêter là aussi, parce qu'on pourrait...
On est en train de défricher, hein, je veux dire, donc... Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole...
David, rapide. Alors, David et Nelly, merci.
Non, c'est juste un mot sur ce mot des publics. Je voudrais sur le sentiment que j'ai de ce que ça veut dire aujourd'hui, le public. On vit une période, malgré tout, où la médiation et la médiatisation générale fait qu'il n'y a pas un public, il y a des communautés. Il y a de plus en plus d'accentuation de « il y a les enfants, il y a les vieux, il y a les Maliens, il y a les Arméniens, il y a les... » Enfin, et que ce rapport à l'appartenance est une chose qui prend un poids terrible. Et je voudrais qu'on réfléchisse un peu avec cette chose-là, qui est une chose qui pèse, et que toutes nos actions culturelles, en tout cas moi je le ressens fortement, sont obligées de jouer finement entre flatter, c'est un mot un peu excessif, mais aller vers ces communautés avec leurs spécificités. Je prends un exemple, on a fait à Alfortville justement un concert arménien, c'est la plus grosse communauté arménienne de la région Île-de-France. On a fait un concert arménien et au fond, on a raté notre coup parce que le public reste le public et qu'il y a une oscillation permanente entre l'appartenance et le communautarisme et en même temps le fait qu'on a besoin de gérer un public dans sa globalité avec ses questionnements globaux et ses non-appartenances. Et là, on est au cœur d'une grosse difficulté parce que les temps d'aujourd'hui accentuent terriblement les positions, d'autant plus, et je rebondis sur la position des élus, tout à l'heure j'ai eu peut-être donné l'impression de stigmatiser les élus, mais les élus, c'est des élus. Des élus par qui ? Par des gens citoyens et appartenant à toutes ces communautés et qui, d'une certaine manière, ont des comptes à rendre. Et curieusement, les élus prennent souvent des positions qui sont la conséquence de ces communautarismes. Voilà. Donc c'est sur ce jeu dialectique que j'aimerais bien insister. Voilà.
Sinon, ça n'a pas marché. Donc la première, c'est rappeler que la vie associative, c'est une partie de la population qui est organisée. Donc je veux rappeler ça. Et la deuxième chose, c'est que des associations, c'est de l'initiative privée, pas publique, mais privée, donc j'insiste, à but non lucratif. C'est, voilà, je préfère enfoncer les portes ouvertes, mais c'est quand même le cœur de notre légitimité et de, voilà, et des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, il y a beaucoup de choses qui partent de ça. Donc, je me suis interrogée, je ne vais pas le dire maintenant, peut-être que le séminaire peut être l'occasion aussi d'écrire un petit peu des choses, mais je me suis interrogée pourquoi la première création d'Ariane Mouchkine s'est faite dans la MJC, et pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a été vraiment, qu'on a généré des gens dans le domaine du théâtre, de la chanson, du cinéma, des arts plastiques, pourquoi aujourd'hui, on a à la fois perdu ce terrain-là, mais on en a regagné d'autres en termes de création. Mais je ne le dis pas maintenant, parce que sinon, Chantal va me faire les gros yeux.
Non, mais c'est très important.
Oui,
c'est très
important, mais j'y reviendrai, parce que je voudrais arriver au bout. Et puis, en fait, dans quel territoire on s'est trouvé cantonné ? Des territoires où la population est de moins en moins solvable, oui, c'est ça, de moins en moins solvable, où des populations, des personnes et des populations étrangères sont venues avec, en important leur culture. Et nous, on a essayé de les accueillir et de les qualifier. Enfin, on essaye, là, je parle au présent, de les accueillir et qualifier, etc. Donc, dans des champs de création artistique les moins lucratifs aussi, Les petites formes du spectacle vivant, les formes qui sont marginalisées par les institutions, par exemple le jeune public, le conte, etc. Donc les petites formes de spectacle vivant les moins lucratives, etc. Donc j'ai refait aussi une deuxième série de constats sur les terrains dans lesquels on s'est retrouvés. Et puis donc voilà, après ce constat vitaminé, il y a quatre questions que je voudrais poser. Donc la première, c'est la question de la redistribution de la richesse. Et comment redonner la main et de l'initiative à une diversité d'acteurs. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne sais pas comment, mais en tout cas, je pense que la solution passe sur la question de la diversité d'acteurs, acteurs des processus de création artistique. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième chose, je rejoins ce que disait Emmanuel à l'instant sur les processus. Je pense qu'il faut qu'on s'efforce de qualifier ces processus de création artistique. En ce qui me concerne, je revendique que les processus de création artistique soient des processus lents, durables, diversifiés. Et quand Yacine parlait tout à l'heure de l'urgence à dire, etc., effectivement, je pense qu'il faut qu'on revendique du temps, de la durée, de la durabilité, etc. Mais il faut qu'on travaille vraiment pour caractériser ces processus. La troisième idée, c'est... sur la place de la population dans les processus, dans ces processus artistiques, moi je pense que les plus grands dangers, c'est que on le fait déjà, soit dans des périmètres de pouvoir technique, qui peut accéder, qui a le droit d'accéder à cette salle, à quelles conditions. Donc il y a des périmètres de pouvoir technique, il y a des périmètres de pouvoir politique, et puis il y a une géographie exclusivement locale. Je l'ai déjà dit hier. Moi, je pense que ce serait un grand danger que d'enfermer les processus de création dans une géographie purement locale. Alors, les petites pistes, et après j'aurai une dernière question sur les catégorisations, les petites pistes, c'est comment associer la population dans la commande artistique, commande publique, commande privée, articulation de commande publique et privée. Alors, j'en veux pas à mon voisin Grégory, mais tout à l'heure quand il a dit, il a parlé d'initiatives, les nouveaux commanditaires de l'art avec la Fondation de France, je n'en veux pas parce qu'il a dit qu'il est arrivé en 2003, mais de 2000 à 2003, le directeur de la musée de Chigny-Mazarin a initié un énorme processus avec la Fondation de France, mathématicien, un clown, un plasticien, voilà, que Arte a fait un film que je tiens à votre disposition. Et que, au final, ce que toi t'as vu en arrivant, c'était effectivement la statue enfermée, mais qu'il y a eu un processus extrêmement. Oui, mais t'as parlé que de la statue enfermée qui restait. Voilà. Et que, du coup, moi, ce que je vois, parce que j'étais là avant, ce que je vois, c'est qu'il y a eu 3 ans de processus. Carté a fait un film là-dessus, justement, sur science et art. Et que, voilà, entre mathématiciens, plasticiens, clowns, voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur les processus de commande. Et commande, c'est intéressant parce que ça veut dire je désire, je souhaite, je veux, je convoque. Donc ça, j'ai bien envie de tirer la population du côté de la commande. La deuxième piste, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la valorisation du bénévolat dans la culture. Je pense que c'est essentiel. C'est tout des histoires de festival de Clermont-Ferrand. On veut requalifier les 103 bénévoles là, de Clermont-Ferrand parce qu'ils ont bouffé, etc. Vous connaissez toutes les histoires de la jurisprudence en cours là-dessus. Je pense que le bénévolat culturel, les pratiques artistiques amateurs, là, je pense que ce sont des chantiers obligatoires. La mobilité de la création. Et un autre point, moi, je pense que... Vous savez, quand on dit les jeunes, on fait la nuit, par exemple, du cinéma, si on décale les temporalités, si on décale les lieux, je pense qu'on redonne, si on décale les lieux traditionnels de la création artistique, si on les décale dans le temps et dans l'espace. Et quand je parlais de ça il y a 3 semaines aux élus des Ulysses, je voyais le premier adjoint qui trépignait. Moi, je disais aussi qu'il fallait, par exemple, je vais vous dire pourquoi il trépignait après, moi, je pense que par exemple, travailler en danse contemporaine dans la centrale thermique de Choisy-le-Roi, travailler sur les parkings, comme disait Tony tout à l'heure. La présidente de la FNCC, la nouvelle présidente, elle est dans une commune de 400 habitants. Et elle dit, moi, mon travail de création artistique, je le fais dans la grange de ma petite commune de 300-400 habitants. Plus petit encore, 200
300.
Hein?
Moins de 300.
Voilà, c'est ça, moins de 300. Pour une fois, j'ai même pas exagéré. Non, mais voilà, une grange, une centrale thermique. Je pense que ce décalage des lieux redonne...
Ça existe
Oui, mais pas assez, ça reste très marginal.
C'est la question d'espace public.
La question de la réappropriation.
D'espace public et privé. Et privé. Non mais voilà, mais c'est tout le travail entre espace public et privé, on va le dire comme ça. Mais je pense que ce décalage... Et pourquoi il trépignait le maire adjoint des Ulis, le premier adjoint des Ulis, il me disait « Ah ben justement, c'est parce que dans la... » Parce que je disais aussi qu'il fallait relier la création artistique aux fonctions moins nobles de la ville. Et quand j'ai dit les fonctions moins nobles de la ville, tout d'un coup, donc, il trépignait parce qu'il disait « Ah mais justement, je fais un événement avec 20 ou 10 ou 30 plasticiens, peu importe, autour de la déchetterie municipale. » Et moi, je pense que d'attaquer les fonctions moins nobles de... dites, présumées moins nobles de la ville... C'est aussi une façon de redonner de la valeur à des choses qui sont, voilà, qui sont dévalorisées qui sont dévalorisées. Et voilà, moi je crois beaucoup à ces choses-là. Donc dernier point sur la catégorisation des publics, parce que ça j'y tiens beau, sur la catégorisation. Moi, il me semble, moi je rentre pas dans les habitants, parce que les habitants ce n'est qu'une catégorie. Et encore une fois, je pense que l'enjeu qu'on a pour les processus artistiques, si on veut ramener plus de la, redonner de la légitimité à la population et aux personnes. Moi, je pense que les mots qui enferment le moins dans des catégories, ben c'est la personne et c'est la population. Parce que ça, c'est vraiment tout le monde. Parce que quand on dit habitant, comme il disait tout à l'heure, si on voit un scientifique et qu'on le réduit, moi j'habite à Issy-les-Moulineaux, si on me réduit à habitant d'Issy-les-Moulineaux, je vais pas aller loin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on voit la diversité des caractéristiques qui traversent les personnes. Parce que je pense que c'est la plus grande façon de s'enfermer, c'est d'enfermer les processus de l'art et de la culture, c'est ne pas considérer la personne et la population comme ressources, mais la considérer sur une facette, celle qui nous arrange. Celle qui paye, celle qui fréquente, celle qui habite à tel endroit, celle qui travaille à tel endroit. Et ou travaille pas d'ailleurs. Mais moi, je pense que là, on a un travail collectif à faire pour sortir, pour décloisonner ces facettes. Un jeune, c'est aussi une catégorie. Alors, ne parlons pas d'élèves. Alors, c'est catégorie de la catégorie. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un travail collectif important à faire.
Merci beaucoup, Nelly. On va faire une réaction de Grégory, mais on ne clôt absolument pas le sujet. Hein. C'est ce qu'on va poursuivre avec Philippe Théier que nous accueillons. Bienvenue parmi nous, qui déjà commence à s'imprégner de là où il est. Donc une réaction de Grégory et peut-être encore une autre rapide, tu veux, Hervé ? Hein ?
Je ne promets jamais d'être rapide.
Ah, d'accord, ok. On verra. Donc, ce sera la surprise, c'est ça aussi la création.
Non, c'est pas tant une réaction, je voulais rebondir sur la stigmatisation.
Alors, voilà, juste pour on a 5-10 minutes parce qu'après, on n'aura jamais le temps de manger.
Juste pour parler d'un projet d'habitant, donc je prends une autre casquette. En tant qu'habitant de ma ville, j'ai été voir ma commune pour dire, regardez, donc Saint-Denis dans le 9-3, regardez l'image pitoyable que vous avez de votre ville, enfin, que les gens ont de notre ville. La stigmatisation, etc. Et en tant qu'habitant, avec deux personnes, enfin deux habitants, on a lancé un projet, on a proposé un projet de livre pour redonner une autre image de cette ville en associant un collectif de 30 artistes, donc au début 5, puis 10, puis 15, puis 20, et en associant des habitants, et ça a donné lieu. Donc, alors quand je dis les habitants, ça va des retraités slameurs de Saint-Denis, des ateliers d'artistes d'art plastique municipaux, en passant par Grand Corps Malade ou encore des plasticiens du coin. Et ce projet-là a donné lieu à une publication qui a été soutenue, qui a été diffusée avec un éditeur, enfin dans des conditions professionnelles. Donc je voulais aussi dire qu'on pouvait avoir des processus de création qui associent les habitants, qui posent une question, qui questionnent le territoire et qui ne soient pas juste une commande d'en haut. Voilà, je pense qu'il faudrait aussi penser à des dispositifs d'accompagnement de ce type de démarche.
Voilà.
Bah, susciter la réaction des gens. Tout simplement, il n'y a pas que ça part pas forcément des artistes.
On va donner le micro.
Sérieusement, c'est pour faire la pause qu'il faut que je fasse vite ou bien.
Non, on a 5 minutes, c'est simplement pour dire.
D'accord,
que
5 minutes.
C'est pour pas te.
Oui, oui, oui.
Frustré,
non, mais je.
Nous, frustré.
Il vaut mieux lui dire dès le départ qu'il sera frustré.
Ah, d'accord. Donc,
il sera
frustré.
Non, mais c'est.
Hervé Perrin.
Oui, il en a qui me page.
Non, mais pas du tout. Je me suis posé la question. Pardon, à nouveau d'être arrivé en retard, mais je me suis posé la question de qu'est-ce qui était en débat, quoi. C'était la création et territoire. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on allait parce que du coup, moi, sur création et territoire, je me suis dit, tiens, j'ai plein d'exemples, j'ai fait plein de choses bien et tout ça, parce que pour moi, c'est une chose importante. Et en même temps, que moi, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est la création ? Et je veux dire, comment ça doit vivre maintenant dans les politiques culturelles ? Pardon, parce que c'est des choses. Moi, je veux dire, bon, j'ai préparé des programmes justement politiques, hein, je veux dire pour parler, je veux dire des politiques culturelles. La question de la création n'était pas du tout une évidence. Pas du tout. Enfin, c'était évident qu'on devait arriver à quand même des processus de création. Mais qu'est-ce qu'on mettait dans la création ? Est-ce qu'on était, je veux dire, dans la reconnaissance d'un langage contemporain, ou est-ce qu'on était, je veux dire, dans une recherche, je veux dire, dans des circuits, des phases expérimentales de recherche, d'innovation et tout ça. Bon, et là, avec la question derrière de ou est-ce que c'était en phase avec des besoins de villes, de territoires, ça c'est très très clair. Parce que dans une ville comme Évry, la création, elle est cantonnée. Il y a des endroits pour ça, quoi. Il y a des endroits pour ça. Et tout d'un coup, je veux dire, bon, c'est bien aussi qu'il y ait des endroits où on se pose pas la question, qu'il y ait des vraies recherches, hein, sur les langages. Mais en même temps, on peut pas dire que on va construire des politiques culturelles avec juste des endroits où on cantonne, je veux dire, où est le sens quand même de ça c'est quand même des choses, moi, qui m'apparaissent importantes. Et alors, moi, parlant de cette de question qui était le sens pour les gens qui votent, on va dire, hein, pas les habitants, les gens qui votent, des politiques culturelles, dit bon, il y a quand même un endroit où la vie des gens qui votent, il faut qu'ils s'expriment, et autour de la création aussi. Et dire par exemple que on va mettre des conseils artistiques et culturels pour débattre justement de des choix qui sont faits, c'était un gros mot. Je me suis fait plusieurs fois un petit peu agresser là-dessus. Alors qu'effectivement, ce sont des choses qui, c'est-à-dire que si on le fait pas, ça arrive un petit peu par des biais sur des conseils de quartier. On pose des choses, ça arrive, et puis c'est un petit peu disqualifié parce que c'est arrivé sans être porté par les gens qui sont censés porter la création. Bon, je vais pas être trop rapide. Je vais juste dire en quelques points, je veux dire, nous, le travail que j'ai mené à partir d'un groupe aussi de réflexion, qui effectivement quand même reposait ces questions-là à partir d'un outil qui est pas mal, qui est l'agenda 21 de la culture, et sur lequel effectivement, ben, dans l'agenda 21 de la culture, qu'est-ce qu'on a effectivement un des axes, c'est la démocratie participative. C'est comment faire qu'à un moment donné, je veux dire, bon, la création, elle reste pas cantonnée. Je veux dire, dans des les endroits, il y a des endroits pour faire ça, quoi, hein, c'est un peu vraiment péjoratif, je trouve, et comment introduire justement une pédagogie, je veux dire, de ces choix-là par la démocratie participative. Il y a un problème pour arriver aussi à la création, c'est-à-dire de cette coupure qui s'est faite. Il y a la création, c'est la culture noble, et on a un vrai problème, c'est que il est arrivé quand même avec la je m'excuse parce que du coup c'est un peu décousu. Mais bon, il est arrivé un événement important dans le monde, qui est la notion de diversité culturelle. Or, en France, on en a fait, parce qu'on avait des établissements pour penser ça, on en a fait de la diversité artistique. Or, dans une ville comme Évry, je veux dire, où les populations issues de l'immigration sont très très présentes, leur culture n'est pas présente. Je veux dire, donc, faire ce travail-là, je veux dire, en pensant, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, création pour ces gens-là, ou reprise de patrimoine, de choses comme ça. Moi, ça me paraît quand même important. Alors après, dans les outils qu'il y a dans l'agenda 21 de la culture, qui est quand même un outil intéressant, il y a, alors là, effectivement, il y a cette notion de territoire, de proximité. Comment ça se fait qu'on trouve dans des quartiers, l'un des quartiers les plus importants d'Évry, les Pyramides, On a un centre social et culturel microscopique avec une salle qui peut accueillir 50 personnes, qui ne peut pas faire un vrai travail, c'est-à-dire d'accueil des publics, d'animation culturelle. Il n'y a pas d'outils, quoi. Il n'y a pas d'outils à la fois qui valorisent ce quartier-là et qui est même capable d'être un outil de dialogue et de rencontre pour les habitants. Donc ça c'est une réflexion qui paraît importante pour travailler sur moi je pense que la création ça vient un petit peu après tout ça maintenant je trouve. Après c'est vrai que la création c'est toujours bon, moi ça finit vraiment par m'énerver que ça soit resté cantonné dans ces espaces-là, parce que quand on a des villes qui ont développé des politiques culturelles, enfin des outils très très performants, comme c'est le cas à Évry, avec un conservatoire à rayonnement départemental assez gigantesque, avec une scène nationale assez disproportionnée, tout ça. Je veux dire, bon, tout d'un coup, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à les faire travailler, effectivement, ce qui était dit tout à l'heure, avec d'autres services éducatifs, services d'urbanisme, je veux dire, bon, à aller, je veux dire, vers les autres, hein, je veux dire, apprendre à travailler avec les autres. Ça, c'est quand même un peu le minimum. Et puis, une chose qui paraît importante, et parce que on est aussi, et c'est fini, et c'est fini, promis, parce qu'on est...
C'est le bruit du bouchon de
c'est ça, voilà. Parce que ça y est, je veux dire, c'est fait. On est relié au monde. Il est plus possible de faire des politiques culturelles locales sans penser sur l'échange international, sans penser coopération décentralisée tout le temps. Ça, c'est pas possible. Et je veux dire, c'est basique. Et donc, si on n'a pas au moins ces cinq dimensions là, je ne sais pas de quoi on parle.
Merci beaucoup.
Voilà, merci. Alors... Je voudrais juste dire un petit mot. Que nous sommes actuellement en chantier avec les MJC, donc sur les quartiers Dynamique Espoir Banlieue. C'est un périmètre certainement contraignant, dont celui des pyramides. Et que justement, nous réfléchissons à comment amener les établissements culturels dans ces territoires. Et à partir de ces territoires contraignants, comment ouvrir justement vers un projet à l'international. Donc c'est un chantier qui nous anime et je voulais le dire.
Un mot, Vincent, tu voulais dire un mot? Je voudrais remercier toutes les personnes autour de la table de la richesse de ce qui est dit. C'est trop. Heureusement qu'on a du temps entre les deux sessions pour qu'on réfléchisse un peu, parce que c'est très très riche. Donc Vincent, est-ce que tu peux nous faire quelques mots plus une phrase de conclusion pour qu'on aille déjeuner? Il arrive en retard.
J'ai un jour et demi de retard. Hey, tu me demandes ça.
Non, je te parle de quelques mots de maintenant. Je te parle pas des deux
jours. Non, je voulais simplement taquiner Hervé, parce que et je reconnais bien dans Hervé l'esprit de générosité, d'ouverture qu'il a par rapport à ces questions-là. Et après, moi, j'ai envie d'être chiant là, 5 secondes par rapport à ce que tu dis, sur quoi je suis à 100% d'accord. Hein. Mais j'ai envie d'être chiant à un endroit. Et je me dis, mais soyons bien d'accord sur une chose. Pendant 50 ans, la création artistique a été captée par des gens qui ont assumé la responsabilité, qui étaient des experts en la matière et qui se sont gardés dans leur tour d'ivoire la capacité d'être les créateurs sur notre territoire. Et puis, voilà, au jour d'aujourd'hui, on voudrait que ce que tu dis très généreusement, qu'on passe à ce que tu appelais le temps des publics aussi. Il y a peut-être une phase où il va falloir être attentive et que j'appellerai, et ça sera mon mot de conclusion, la tentation de la démagogie. Voilà, merci.
Bah, écoute, merci beaucoup. On poursuivra cette réflexion cet après-midi, à la fois avec Philippe Théier et Jean-François Marchandise. Merci beaucoup. Et bon appétit. Et une petite information, on commence à 14h. Et on mange ici. On mange ici. Thank you.